VOA Afrique, les infos. À Washington, Nathalie Barge.
Et dans une dizaine de minutes, le dialogue des religions avec Idrissa Seydou Dia. Mais tout d'abord donc les infos. Au Togo, les forces de sécurité ont voté ce mercredi par anticipation pour la présidentielle prévue samedi pour le grand public. Idriss Fall.
Quelques 20 000 militaires, policiers, gendarmes, douaniers et pompiers étaient appelés aux urnes dans 214 bureaux de vote. Pour le colonel Kossi Akpovi, commandant de la force de sécurité de l'élection présidentielle, ce vote anticipé aidera à mieux gérer la sécurisation des bureaux de vote samedi. Dans ce scrutin à un seul tour, le président sortant Faure Gnassingbé fait face à quatre candidats, dont Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition. Dans un communiqué, Amnesty International a dénoncé les agissements de l'armée, l'accusant d'avoir tiré à balles réelles sur des manifestants le 25 mars à Gléhi, au nord de Lomé. Les manifestations prévues par la synergie des travailleurs du Togo, une centrale syndicale, ont été interdites. Ces 20 dernières années, presque toutes les proclamations de résultats d'élections togolaises ont été suivies de violences meurtrières.
En Centrafrique, plus de 40 musulmans, principalement des femmes et des filles, sont retenus en captivité par des anti-balakas présumés, a déclaré Human Rights Watch ce mercredi, appelant la force de paix onusienne et le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour les libérer. Les anti-balakas ont démenti ces allégations. Le Conseil de sécurité de l'ONU a mandaté la MINUSCA pour lutter contre les violences sexuelles, notamment en aidant à traduire en justice les auteurs de ces violences, rappelle l'organisation, alors que le mandat de la MINUSCA doit être renouvelé le 28 avril. Les dispositions visant à combattre les violences sexuelles devraient demeurer fortes, souligne Human Rights Watch. Reporters sans frontières se félicite de l'arrestation d'un suspect en rapport avec le meurtre du journaliste Soleil Balanga, qui a été tué le 16 avril à Monkoto, dans la province de l'Équateur, en RDC. RSF réclame une enquête approfondie. Cléa Khan Sriber, responsable du bureau Afrique de l'ONG, au micro de Camille Gros-Didier.
Donc la personne qui est responsable de cette agression est le fils du directeur de l'hôpital local. Et le journaliste avait annoncé à la radio un changement, une mutation, un changement de direction de l'hôpital qui avait été décidé par les autorités du lieu. Et voilà, et l'annonce de cette nouvelle aurait déplu apparemment au fils de ce directeur d'hôpital qui a décidé de prendre les choses en main de façon horriblement violente.
A-t-il été interpellé ?
Alors effectivement, oui, le présumé coupable a été arrêté et interpellé. On se félicite de savoir que le responsable de l'acte est en prison, mais on s'inquiète un peu quand même de voir que non seulement lui, mais en plus au total 5 personnes auraient été arrêtées, ce qui pourrait dénoter un peu un travers de la justice congolaise qui est d'arrêter massivement un tas de personnes pour montrer que quelque chose est fait, mais pas forcément en garantissant qu'une enquête approfondie et ciblée est menée.
Cléa Khan Sriber de Reporters sans frontières. En Afrique du Sud, l'armée a été déployée pour lutter contre les violences xénophobes. Ailleurs sur le continent, le Nigeria a officiellement protesté contre ces violences et appelé le gouvernement sud-africain à punir les coupables et dédommager les victimes. Tout en déplorant cette situation, le doyen du corps diplomatique à Pretoria, l'ambassadeur Benempoko de la RDC, a appelé les autres pays africains à la compréhension.
Le Congo fait partie de la région de SADC et dans le cadre du programme de l'intégration régionale, nous devons tous nous accepter et vivre en paix. Nous avons un programme qui va s'exécuter à travers une courte période pour intégrer la région de la SADC. Et pour cela, nous avons besoin de la paix. Et ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud va retarder le programme d'intégration. Va aussi peut-être mettre des doutes sur les investissements, sur les programmes de migration, ainsi de suite. Donc, il est important qu'on se résoudre ce problème le plus rapidement possible. D'abord, si la situation se calme, et que l'Afrique du Sud, par la suite, envoie des émissaires, surtout dans les pays dont les ressortissants ont été les victimes de ces attaques, de quoi le continent africain va comprendre. Ils vont comprendre que d'accord, ça est arrivé, on est en train de prendre des mesures, et ils vont se poser la question de savoir comment nous, en tant que pays africain, on peut aider l'Afrique du Sud à mettre fin à cette situation.
C'était l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, Benim Poko.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Au Sénégal, le président Macky Sall a appelé les enseignants du primaire et du secondaire à reprendre définitivement le travail. Ils sont en grève cyclique depuis décembre pour exiger le respect d'accords signés avec l'État. Bagassi Koura.
Selon l'agence de presse sénégalaise citée par l'AFP, le président Sall affirme compter sur un sursaut patriotique des enseignants pour éviter que l'année scolaire 2014-2015 soit considérée comme nulle pour les élèves dans le public. Les syndicats d'enseignants du primaire et du secondaire observent depuis fin décembre des arrêts de travail pendant plusieurs jours dans la semaine pour exiger le respect d'accords signés avec le gouvernement en février 2014. Ces accords sont notamment liés à l'intégration de certains corps comme les volontaires et les vacataires dans la fonction publique, la formation et les logements et des droits à des indemnités. Le chef de l'État a reconnu la légitimité des revendications des enseignants, mais il leur a rappelé qu'elles ne sont pas les seules à l'être, a indiqué le quotidien pro-gouvernemental Le Soleil. Le ministre chargé de l'éducation, Serigne Mbaye Thiam, a récemment menacé de couper les salaires des grévistes.
L'ONU se dit préoccupée par la disparition de 3 membres du PAM le 1er avril au Soudan du Sud. 10 travailleurs humanitaires ont été tués dans la région en 16 mois, dans l'état du Haut-Nil. Par ailleurs, selon la mission onusienne au Soudan du Sud, des combats ont éclaté la nuit dernière et ont continué jusqu'en début d'après-midi. La résidence du gouverneur du Haut-Nil aurait été pilonnée par des mortiers et 2 de ses agents de sécurité blessés. Au moins 1500 civils sont arrivés au camp de protection de l'ONU près de Malakal, qui abrite environ 28 000 personnes déplacées. Amnesty International a appelé l'Union européenne à fournir des efforts humanitaires pour mettre fin à la tragédie des naufrages de migrants en Méditerranée. Dans un rapport publié ce mercredi à Paris, l'organisation a exhorté les dirigeants européens lors de leur réunion demain à Bruxelles à autoriser immédiatement une opération humanitaire avec plus de navires, d'aéronefs et d'autres ressources pour patrouiller en Méditerranée et secourir des migrants lorsque leur vie est en danger. Au Yémen, les rebelles chiites houthis se sont emparés d'une base des forces du président Abderrabou Mansour Hadi à Taïz, où les combats se poursuivent, ainsi qu'à Aden dans le sud. Des précisions avec Michel Joseph.
La chute de cette base a été suivie d'un raid aérien de la coalition arabe dans le secteur. Hier, l'Arabie Saoudite a déclaré la fin de la campagne aérienne qui, depuis un mois, visait à barrer la route aux rebelles appuyés par l'Iran. Mais, avait précisé Riyad hier, ce nouvel accent sur le soutien à une solution politique n'excluait pas des frappes pour empêcher les rebelles d'acquérir ou d'utiliser des armes de l'armée gouvernementale. Les Saoudiens ont également dit accorder la priorité à la reprise des pourparlers de paix parrainés par l'ONU. Ici à Washington, la Maison-Blanche s'est félicitée de la décision d'arrêter les bombardements et elle a appelé à une reprise rapide des négociations entre toutes les parties en présence au Yémen pour un processus de transition sans exclusive. Sa porte-parole, Jen Psaki, reconnaît cependant que l'instabilité continuait de prévaloir au Yémen et dans la région. Dans leur première réaction, les rebelles ont, eux, exigé l'arrêt total des raids aériens, la levée du blocus aérien et maritime, ainsi que la reprise du dialogue politique sous l'égide de l'ONU.
L'Union européenne accuse le géant russe Gazprom de violation antitrust. Selon Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence, Gazprom abuse de sa position dominante dans les pays d'Europe centrale et orientale, où il contrôle presque entièrement le marché du gaz. Les responsables de l'entreprise ont réagi en invoquant le statut d'entité commerciale stratégique de l'État russe qui échappe aux juridictions de l'Union européenne. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Restez avec nous dans une quinzaine de secondes, le dialogue des religions avec Idrissa Seydoudia. Très bonne soirée à tous sur VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info.